Les apparitions publiques ne sont pas ma tasse de thé. Quand je me retrouve debout devant des spectateurs, j'ai toujours le sentiment d'être un imposteur. Pas parce que je suis un solitaire, même si j'en suis un, du moins dans une certaine mesure. Je peux aller du Maine en Floride, tout seul au volant de ma voiture, et m'en trouver parfaitement content. Ce n'est pas le trac non plus, même si je le ressens toujours quand je me présente devant 2 ou 3 000 personnes. Pour la plupart des écrivains, c'est une situation peu naturelle. Nous sommes plus habitués à nous montrer dans des bibliothèques devant des groupes d'une trentaine de lecteurs assidus. Ce sentiment d'être la mauvaise personne au mauvais endroit découle principalement du fait que nous savons que qui ou quoi que le public soit venu voir, ce qui ou ce quoi ne sera pas là. Le moi qui crée les histoires existe seulement dans la solitude. Celui qui se présente pour partager des anecdotes et répondre à des questions est un piètre substitut à l'inventeur d'histoire. En novembre 2013, à Paris, j'ai été conduit à ma dernière apparition publique au Grand Rex, capacité 2800 places, à l'arrière d'un gros 4x4 de loisirs noirs. Je me sentais nerveux et pas à ma place. Les rues étaient étroites et la circulation dense. J'avais ma petite liasse de papier, quelques remarques, un court extrait à lire, dans une chemise posée sur mes genoux. À un feu rouge, nous nous sommes arrêtés à côté d'un bus, les deux larges véhicules collés l'un à l'autre, presque à se toucher. J'ai regardé par l'une des vitres du bus et vu une femme en tailleur strict qui rentrait peut-être chez elle après une journée de travail. J'ai regretté fugitivement de ne pas être assis à côté d'elle, en route moi aussi pour la maison, où je mangerais un morceau avant de lire pendant une heure ou deux, installé dans un fauteuil confortable et éclairé par la lumière d'une bonne lampe, au lieu d'être en train de me faire conduire dans un théâtre jouant à guichet fermé, rempli de fans dont je ne parlais pas la langue. Peut-être que la femme a senti mon regard. Il est plus probable qu'elle ait levé les yeux de son magazine par ennui. Quoi qu'il en soit, elle a levé la tête et m'a regardé, en contrebas, à peut-être 1 mètre à peine d'elle. Nos regards se sont croisés, et dans le sien, ce que j'ai imaginé voir, c'était le regret de ne pas être à ma place dans mon véhicule de loisir dernier cri, en route pour un endroit où il y aurait des lumières, des rires et du divertissement au lieu d'être dans ce bus la ramenant chez elle, où il n'y aurait rien qu'un petit repas, peut-être décongelé, suivi d'une soirée devant le journal du soir et les mêmes vieilles séries télé. Si nous avions pu échanger nos places, nous en aurions été heureux tous les deux. Puis elle a rabaissé les yeux sur son journal et j'ai rabaissé les miens sur mes documents. Le bus a pris une direction et le véhicule de loisir une autre. Mais l'espace d'un instant, nous avons été assez proches pour plonger notre regard dans le monde de l'autre. J'ai pensé à l'histoire qui va suivre. Et quand je suis rentré de mon excursion outre-Atlantique, je me suis assis à ma table de travail et je l'ai rédigé d'une traite. Ce bus est un autre monde. La mère de Wilson, qui n'était pas l'une des personnes les plus joyeuses au monde, avait un dicton. Quand les choses commencent à mal tourner, elles continuent de mal tourner jusqu'à ce que quelqu'un pleure. Avec cela à l'esprit, comme il avait à l'esprit toute la sagesse populaire apprise dans les jupons de sa mère, une orange est d'or le matin et de plomb le soir, Wilson avait toujours soin de prendre des assurances voyage. Il considérait ça comme des filets de sécurité, avant toute occasion particulièrement importante. Et aucune occasion dans sa vie d'adulte n'était plus importante que son voyage à New York, où il présenterait le dossier qu'il avait monté, accompagné du topo qu'il avait préparé, à tout le gratin de chez Market Forward. MF était l'une des plus importantes agences de publicité de l'ère Internet. La compagnie de Wilson, Southland Concepts, était une toute petite entreprise d'un seul salarié basée à Birmingham, Alabama. Des opportunités comme celle-là ne se représentent jamais deux fois, d'où l'importance vitale d'un filet de sécurité. C'est pourquoi Wilson arriva au Birmingham Shuttlesworth Airport à 4h du matin pour un vol sans escale décollant à 6 et atterrissant à 9h20 à l'aéroport de LaGuardia. Son rendez-vous, une audition en fait, était prévu à 14h30. Un filet de sécurité de 5 heures semblait être une assurance voyage suffisante. Au début, tout se passa bien. L'agent, à la porte d'embarquement, vérifia le contenu de son carton à dessin et obtint l'autorisation pour Wilson de le ranger dans le compartiment à bagages de première classe. Wilson lui-même, naturellement, voyageait en classe économique. Dans ces cas-là, le truc était de poser la question assez tôt, avant que les employés ne commencent à être saturés. Les gens saturés n'ont pas envie d'entendre à quel point votre carton à dessin est important et comment il pourrait bien constituer votre passeport pour le futur. Il avait une valise à enregistrer, car si le sort voulait qu'il soit finaliste pour la campagne de Green Century, ce qui pouvait très bien arriver, il était de fait fort bien positionné, il était peut-être parti pour rester 10 jours à New York. Il n'avait aucune idée du temps que prendraient les différentes étapes de sélection, et il n'avait pas plus envie d'envoyer ses vêtements à la blanchisserie de l'hôtel qu'il n'avait envie de commander ses repas au room service. Si les suppléments hôteliers étaient onéreux dans toutes les grandes villes, ils étaient épouvantablement onéreux dans la grosse pomme. Les choses ne commencèrent à mal tourner qu'au moment où l'avion, qui avait décollé à l'heure, arriva sur New York. Là, il prit sa place dans un embouteillage aérien, décrivant des cercles et dansant le pogo dans l'atmosphère grise au-dessus de l'aéroport que les pilotes appellent non sans raison la garbage, la poubelle. Des plaisanteries pas très drôles et de vertes récriminations se firent entendre, mais Wilson demeura serein. Son assurance voyage était en place, il avait un confortable filet de sécurité. L'avion atterrit à 10h30, soit avec légèrement plus d'une heure de retard. Wilson se dirigea vers la zone de livraison des bagages où sa valise n'apparut pas. N'apparut pas. N'apparut pas. Finalement, lui et un vieil homme barbu, coiffé d'un béret noir, furent les seuls passagers restants, les derniers bagages non réclamés sur le tapis étant une paire de raquettes à neige et une grande plante verte aux feuilles flétries par le voyage. « C'est pas possible !» dit Wilson au vieil homme. « Le vol était sans escale. » Le vieil homme haussa les épaules. « Ils ont du mal les étiqueter à Birmingham. Pour ce qu'on en sait, nos affaires sont peut-être en route pour Honolulu à l'heure qu'il est. Je m'en vais de ce pas au bureau des bagages perdus. Voulez-vous venir avec moi ?» Wilson accepta, en pensant au dicton de sa mère et en remerciant Dieu d'avoir encore son carton à dessin avec lui. Il avait à moitié rempli le formulaire de perte de bagage quand un manutentionnaire parla dans son dos. « Ce bagage appartient-il à l'un de vous deux, messieurs ?» Wilson se retourna et vit sa valise écossaise qui paraissait mouillée. « Elle est tombée de l'arrière du chariot à bagages, » dit le manutentionnaire, en comparant les deux tickets de contrôle, celui agrafé au billet de Wilson et celui attaché à la valise. « Ça arrive de temps en temps. Vous devriez prendre un formulaire de réclamation au cas où quelque chose soit cassé à l'intérieur. » « Où est la mienne ?» demanda le vieil homme au béret. « Alors là, je peux pas vous aider, » dit le manutentionnaire. « Mais on les retrouve presque toujours à la fin. »« Ouais, » dit le vieux, « mais c'est pas encore la fin. » Le temps que Wilson quitte le terminal avec sa valise, son carton à dessin et son sac de cabine, il n'était pas loin d'11h30. Plusieurs autres vols étaient arrivés dans l'intervalle et la file d'attente pour les taxis était longue. « J'ai un filet de sécurité, » se rassura-t-il. « 3 heures. C'est large. Et puis, je suis sous l'avant-toi, à l'abri de la pluie. Estime-toi heureux et détends-toi. » Tout en avançant à pas de fourmi, il répéta mentalement son texte de présentation, visualisant chacun des panneaux grand format dans son carton à dessin et se rappelant de penser à être décontracté. De monter sa meilleure offensive de charme et de chasser de sa tête, dès qu'il franchirait la porte du 245 Park Avenue, l'énorme changement de fortune potentielle que cela représentait pour lui. Green Century était une entreprise pétrolière multinationale et son nom à connotation écologique teintée d'optimisme était devenu un handicap lorsque l'un de ses puits sous-marins avait explosé non loin de Gulf Shores, Alabama. Sans être aussi catastrophique que celle de la plateforme du Deepwater Horizon, la fuite n'en avait pas été moins conséquente. Et, grand Dieu, ce nom! Les chroniqueurs de fin de soirée en avaient fait des gorges chaudes. Letterman, qu'est-ce qui est vert et noir et tout dégueulasse? La première réponse publique géniarde du PDG de Green Century, « Il faut bien qu'on aille chercher le pétrole là où il est, les gens devraient comprendre ça », n'avait rien arrangé. Un petit dessin animé montrant un puits de pétrole pompant dans le cul du PDG, avec en dessous la phrase qu'il avait prononcée, était devenu viral sur Internet. L'équipe de communicants de Green Century s'était adressée à Market Forward, leur agence de pub depuis toujours, avec ce qu'ils pensaient être une idée géniale. Il voulait sous-traiter la campagne sur le contrôle des dégâts à une petite agence de pub du Sud et tourner à leur avantage le fait de ne pas avoir recours au même petit malin de New-Yorkais pour apaiser la colère du peuple américain. Il se souciait tout particulièrement de l'opinion de ces Américains vivant en dessous de ce que ces petits malins de New-Yorkais appelaient sans aucun doute la ligne Mason-Dukon dans leur cocktail distingué. La file d'attente à la station de taxi avançait à pas de fourmi. Wilson consulta sa montre. Midi moins 5. Pas d'inquiétude, se dit-il, mais il commençait à en avoir. Il monta enfin dans un véhicule Charlie Dingo à midi 20. Il détestait l'idée de devoir traîner sa valise mouillée par sa chute sur le tarmac dans une suite de bureaux grand luxe d'un immeuble d'affaires de Manhattan, ce que ça ferait paysan, mais il commençait à penser qu'il devrait peut-être faire l'impasse sur une halte à l'hôtel pour la déposer. Le taxi était un monospace jaune vif. Son conducteur était un sikh mélancolique vivant sous le dôme d'un énorme turban orange. Des photos sous résine de sa femme et de ses enfants se balançaient à son rétroviseur. Sa radio était réglée sur 101 Winds et toutes les 4 minutes environ, les notes de xylophone de son jingle agaçant vous faisaient grincer des dents. « Très fic, très mauvais aujourd'hui !» dit le sikh, alors que le taxi se dirigeait comme une tortue vers la sortie de l'aéroport. Cela semblait être toute l'étendue de sa conversation. « Très fic, très très mauvais !» La pluie redoubla alors qu'il se traînait vers Manhattan. Wilson sentait son filet de sécurité s'effilocher à chaque arrêt et soubresaut dans ce mouvement péristaltique en avant. Il disposait d'une demi-heure pour faire sa présentation, une demi-heure seulement. Lui garderait-il son tour s'il était en retard? Dirait-il, « Messieurs, parmi les 14 petites agences de pub sudistes que nous auditionnons aujourd'hui pour la grande finale, une étoile est née et tout ça, une seule a collaboré avec des entreprises victimes d'accidents environnementaux, et cette agence est Southland Concepts. Ne laissons donc pas M. James Wilson hors course sous prétexte qu'il est un peu en retard. » Il pourrait peut-être dire ça, mais tout bien réfléchi, Wilson pensait que... non. Ce qu'il désirait plus que tout, c'était mettre un terme à toutes ces blagues des émissions satiriques du soir à ASAP, ce qui rendait le topo de la plus haute importance, mais évidemment, chaque trou du cul a son propre topo. Celle-là, c'était une perle de sagesse qu'il devait à son père. Il fallait qu'il soit à l'heure. 1h15. Quand les choses commencent à mal tourner, elles continuent de mal tourner, pensa-t-il. Il n'avait pas envie de le penser, mais il le fit quand même. Jusqu'à ce que quelqu'un pleure. Comme ils approchaient du Midtown Tunnel, il se pencha en avant et demanda au sikh 1 heure d'arrivée approximative. Le turban orange dodelina tristement d'un côté à l'autre. « Peut pas dire, monsieur. Très fic, très très mauvais. » « 1 demi-heure ?» Il y eut un long silence, puis le sikh dit « Peut-être ?» Sa réponse, rassurante et prudemment choisie, suffit à faire comprendre à Wilson que sa situation était grave, pour ne pas dire critique. « Je peux laisser ma foutue valise à la réception de Market Forward, » pensa-t-il. « Comme ça, au moins, j'aurai pas à me la traîner dans la salle de conférence. » Il se pencha en avant et dit « Laissez tomber l'hôtel. Conduisez-moi au 245 Park Avenue. » Le tunnel était un cauchemar de claustrophobe. Avance, arrêt, avance, arrêt. La circulation de l'autre côté, sur la 34e rue, n'était pas meilleure. Le monospace était juste assez haut pour que Wilson aperçoive tous les obstacles décourageants au devant. Pourtant, quand ils atteignirent Madison, il commença à se détendre un peu. Ce serait juste, beaucoup plus juste qu'il ne l'aurait voulu, mais il n'aurait pas besoin de passer un appel téléphonique humiliant pour dire qu'il serait un poil en retard. Faire l'impasse sur l'hôtel avait été la bonne décision. Sauf qu'à ce moment-là, intervint la rupture de canalisation d'eau et les chevalets de détournement de trafic et le sikh dut bifurquer pour contourner le chantier. « Pire que quand Obama vient !» dit-il pendant que 101 Winds promettait à Wilson que s'il leur accordait 22 minutes, eux lui accorderaient le monde. Leur xylophone cliqua comme des dents branlantes. « Je ne veux pas le monde, » pensa-t-il. « Je veux juste arriver au 245 Park Avenue à 14h15, 14h20 grand maximum. » Le Jolly Dingo revint enfin dans Madison. Il sprinta quasiment jusqu'à la 36e rue, puis s'arrêta net. Wilson imagina un commentateur de football américain expliquant au public que si le sprint avait été spectaculaire, le gain de terrain restait négligeable. Les essuie-glaces claquaient. Un journaliste parlait de cigarettes électroniques. Puis il y eut une pub pour les matelas Sleepies. Wilson pensa « Relax, Max. S'il faut, je peux y aller à pied d'ici. 11 blocs, c'est tout. » Sauf qu'il pleuvait et qu'il devrait traîner sa foutue valise. Un bus Peter Pan arriva à hauteur du taxi et s'arrêta dans un souffle de frein pneumatique. Wilson était assis suffisamment haut pour regarder par la vitre et voir l'intérieur du bus. À 1,50 m au-dessus de lui, pas plus, une jolie femme lisait un magazine. Assis à côté d'elle, côté couloir, un homme en imperméable noir fouillait dans l'attaché case posé en équilibre sur ses genoux. Le sikh donna un coup de klaxon, puis leva les mains, paume vers le ciel, comme pour dire « Regardez ce que le monde m'a fait !» Wilson regarda la jolie femme effleurer le coin de ses lèvres, vérifiant peut-être la tenue de son rouge à lèvres. Son voisin farfouillait à présent dans la pochette intérieure du couvercle de son attaché case. Il en sortit une écharpe, l'approcha de son nez et la renifla. « Qu'est-ce qui lui prend de faire ça ?» se demanda Wilson. « C'est le parfum de sa femme ou l'odeur de sa poudre ?» Pour la première fois depuis qu'il était monté dans l'avion à Birmingham, il oublia Green Century et Market Forward, et la possible amélioration radicale de ses conditions de vie si l'entrevue, distante maintenant de moins d'une demi-heure, se passait bien. Pour le moment, il était fasciné, plus que fasciné, captivé par les doigts de la femme effleurant délicatement ses lèvres et par l'homme avec l'écharpe contre le nez. Il lui vint à l'esprit qu'il regardait dans un autre monde. Cet homme et cette femme avaient leur propre rendez-vous, auquel étaient sans nul doute attachés des ballons d'espoir. Ils avaient des factures à payer, ils avaient des frères et des sœurs et des jouets d'enfants préférés qu'ils n'avaient jamais oubliés. La femme s'était peut-être fait avorter quand elle était étudiante. L'homme portait peut-être un anneau pénien. Ils avaient peut-être des animaux de compagnie, et si oui, ses petits compagnons avaient certainement des noms. Wilson eut une image fugitive, vague et imprécise mais formidable, d'une galaxie aux mécanismes d'horlogerie dont les roues et engrenages exécutaient des mouvements mystérieux afin peut-être de l'entraîner vers une fin karmique, ou peut-être sans aucune raison. Ici se trouvait le monde du taxi Jolly Dingo, et à 1,50 m se trouvait le monde du bus Peter Pan. Les séparaient seulement 1,50 m et 2 épaisseurs de verre. Wilson était tout étonné de l'évidence de ce fait. « Ce trafic, alors, » dit le Sikh. « Pire qu'Obama, je vous dis. » L'homme lâcha l'écharpe qu'il reniflait, la retenant d'une main, il plongea l'autre dans la poche de son imperméable. La femme assise côté fenêtre feuilleta son magazine. L'homme se tourna vers elle. Wilson vit ses lèvres remuer. La femme leva la tête et ses yeux s'agrandirent manifestement de surprise. L'homme se pencha plus près, comme pour lui confier un secret. Wilson ne s'avisa que ce qu'il avait retiré de la poche de son imperméable était un couteau que lorsque l'homme s'en servit pour trancher la gorge de la femme. Les yeux de la femme s'agrandirent, ses lèvres s'ouvrirent. Elle leva une main vers son cou. De la main qui tenait le couteau, l'homme en imperméable repoussa doucement, mais fermement, celle de la femme. En même temps, il plaqua l'écharpe noire sur sa gorge et l'y maintint. Puis il baisa le creux de sa tempe tout en regardant à travers ses cheveux. Il vit Wilson, et ses lèvres s'écartèrent en un sourire assez large pour dévoiler deux rangées de petites dents régulières. Il hocha la tête comme pour dire « Bonjour à vous, monsieur, ou maintenant nous partageons un secret. » Il y avait une goutte de sang sur la vitre près de la femme. La goutte grossit et coula le long du verre. Tenant toujours l'écharpe contre sa gorge, l'homme à l'imperméable glissa un doigt dans la bouche relâchée de la femme. Et ce faisant, il continua de sourire à Wilson. « Enfin !» dit le Sikh, et le taxi Jolly Dingle se remit à avancer. « Vous avez vu ça ?» demanda Wilson. Le son de sa voix était sans timbre et sans surprise. « Cet homme-là, cet homme dans le bus, avec la femme !»« Quoi, monsieur ?» demanda le Sikh. Le feu passa à l'orange, et ignorant un concert d'avertisseurs, le Sikh se faufila en changeant de voix. Le bus Peter Pan resta en arrière. Au devant, ressemblant à un pénitencier, la gare de Grand Central se profilait sous la pluie. C'est seulement lorsque le taxi repartit que Wilson pensa à son portable. Il le sortit de la poche de son manteau et le regarda. S'il avait eu de la présence d'esprit, ça c'était le rayon de son frère, d'après sa mère, il aurait pu prendre l'homme à l'imperméable en photo. Il était trop tard pour ça, mais pas trop tard pour appeler le 911. Bien sûr, il ne pourrait pas passer cet appel anonymement. Son nom et son numéro apparaîtraient en caractères et chiffres lumineux sur quelque écran officiel au moment où son appel aboutirait. On le rappellerait pour s'assurer que ce n'était pas un joyeux luron s'amusant à faire des farces par une après-midi pluvieuse à New York. Puis on réclamerait des renseignements qu'il devrait fournir, pas le choix, au poste de police le plus proche. On lui ferait raconter son histoire plusieurs fois. Ce dont on n'aurait rien à faire, c'était de son topo. Son topo s'intitulait « Donnez-nous 3 ans ». Et nous le prouverons. » Wilson pensa au déroulement supposé de l'entrevue. Il commencerait par dire aux communicants et cadres réunis que la fuite de pétrole devait être affrontée sans détour. Elle était là. Des volontaires étaient encore en train de laver au détergent des oiseaux mazoutés. On ne pouvait pas la cacher sous le tapis. Mais, leur dirait-il, la réparation n'a pas forcément à être sordide et parfois la vérité peut être magnifique. Les gens veulent croire en vous, les gars, leur dirait-il. Ils ont besoin de vous, après tout. Ils ont besoin de vous pour se déplacer d'un point à un autre, et ils n'ont pas envie de se voir comme des complices du viol de l'environnement. À ce moment-là, il ouvrirait son carton à dessin et présenterait son premier panneau. La photo d'un garçon et d'une fille debout sur une plage immaculée, dos à l'objectif, le regard tourné vers une eau si bleue qu'elle en faisait presque mal aux yeux. « Énergie et beauté peuvent marcher main dans la main », disait la légende. « Donnez-nous 3 ans et nous le prouverons. » Appeler le 911 était si simple que même un enfant savait le faire. En fait, les enfants le faisaient. Quand un cambrioleur entrait, quand petite sœur tombait dans l'escalier, ou si papa prenait maman pour un punching ball. Ensuite venait son scénario pour la campagne télévisée qui serait diffusée dans tous les États du Golfe du Mexique, avec insistance sur les journaux locaux et les 24 chaînes câblées comme Fox et MSNBC. En séquence photo accélérée, une plage souillée de mazout redeviendrait propre. « Nous avons pour responsabilité de réparer nos erreurs », tirait la voix du narrateur avec un léger accent du Sud. « C'est notre façon de concevoir les affaires et de traiter nos voisins. Donnez-nous 3 ans et nous le prouverons. » Puis, les publicités imprimées, les publicités radio et dans la phase 2. « Monsieur, vous avez dit quoi ?»«
Je pourrais appeler », se disait Wilson. « Mais le type sera probablement descendu du bus et parti depuis longtemps quand la police arrivera sur les lieux. Probablement, presque assurément. » Il se retourna pour regarder derrière lui. Le bus était loin derrière maintenant. Peut-être, pensa-t-il, que la femme a crié. Peut-être que les autres passagers sont déjà en train de tomber sur le type comme les passagers étaient tombés sur le terroriste à la chaussure piégée quand ils s'étaient aperçus de ce qu'il manigançait. Puis il pensa à la façon dont l'homme à l'imperméable lui avait souri, et comment il avait mis son doigt dans la bouche molle de la femme.
Wilson pensa, en parlant de farce, c'était peut-être pas ce que j'ai cru que c'était. C'était peut-être un gag, un truc qu'ils font tout le temps, un truc du style flash mob. Plus il l'envisageait, plus ça lui paraissait plausible. Les hommes tranchaient la gorge des femmes dans des ruelles ou dans des émissions de télé, pas dans des bus pied-de-pin au beau milieu de l'après-midi. Quant à lui, il avait conçu une super campagne de publicité. Il était l'homme qu'il fallait, au moment et à l'endroit qu'il fallait. Et on avait rarement une deuxième chance en ce monde. Ça n'avait jamais été l'un des dictons de sa mère, mais c'était un fait.
« Monsieur ?»« Laissez-moi au prochain feu, » dit Wilson. « Je terminerai à pied. »
Pour Hesh Keston.